sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros, prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Europe 1, il est 20h.
Europe 1 Soir Week-end.
19h, 21h, Stéphanie Demureux.
Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end, chers auditeurs. Dans quelques instants, mes débatteurs de la deuxième heure, débatteuses même, Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Sarah Sandman, avocate au barreau de Paris. Et puis à 20h10, 20h15, Alexandre Devecchio sera mon invité. Vous le connaissez, il est journaliste, il est souvent dans nos studios, sur nos plateaux. On le reçoit pour son livre Nous vivions à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayard. En attendant, c'est le journal avec vous, mon cher Maël Laurent. Et ça y est, il est officiellement signé.
Oui, c'était il y a un peu plus de 2 heures, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La présidente de la Commission européenne avait fait le déplacement jusqu'au Paraguay. Vous l'entendrez dans ce journal. Vous entendrez également un jeune agriculteur qui s'interroge à l'idée de lancer son activité dans ce contexte de concurrence accrue. Quel budget est surtout adopté? Comment Sébastien Lecornu a prévu de trancher la question d'ici mardi? Le Premier ministre qui a dévoilé hier les pistes du compromis trouvé avec les socialistes pour éviter qu'ils ne censurent, un compromis de loin de faire l'unanimité parmi les autres oppositions. On y reviendra également. Et puis attention au risque d'avalanche particulièrement mortel. 6 morts ces dernières heures en Suisse et en Autriche. 6 morts également en France le week-end dernier. Skier hors piste, c'est forcément plus dangereux, forcément aussi à vos risques et périls. Il existe néanmoins certaines consignes de prudence à respecter hors piste pour tenter d'éviter le pire. On vous en parle à la fin de cette édition.
Et Estelle, le fond là. Tendance météo pour demain, ma chère Estelle.
On retient l'épisode méditerranéen qui est en cours, commencé vendredi. Il se poursuit encore demain avec de gros cumuls attendus sur l'Hérault et le Languedoc. Je vous en dis plus à la fin du journal.
À tout à l'heure, Estelle.
Europe 1.
Emel, donc le plus grand accord de libre-échange jamais signé par l'Union européenne.
Et les 4 pays du Mercosur. Donc il vient d'être paraffé par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Je vous propose d'écouter sa réaction. C'était au Paraguay, pays membre du Mercosur, avant 18h française.
Nous sommes en train de créer un marché de 700 millions de personnes. Et presque 20% du PIB est représenté ici. C'est phénoménal. Cet accord envoie un puissant message au reste du monde. Il reflète un choix clair et délibéré. Nous optons pour un commerce juste plutôt que des droits de douane. Pour un partenariat productif à long terme plutôt que l'isolement. Et par-dessus tout, nous entendons apporter des avantages concrets et tangibles à nos peuples, à nos entreprises.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et même si cette signature ne veut pas dire entrée immédiate en vigueur entre ratification requise par les différents États membres de l'UE et contestations juridiques à venir, les agriculteurs sont partagés entre résignation et poursuite de la mobilisation. Quant à la nouvelle génération, c'est l'incertitude qui prime entre la passion du métier et la peur de la précarité. Beaucoup s'interrogent. Vaut-il encore le coup de se lancer? Illustration avec Maxence, originaire du Cher et étudiant agricole en BTS production animale. Il s'est confié au micro Europe 1 de Romy Azoulay.
À 19 ans, Maxence veut lancer son élevage de vaches laitières dès l'été prochain, malgré les avertissements de son père agriculteur qui connaît bien la dure réalité du métier.
Mon père m'a toujours dit, surtout si tu veux faire autre chose que d'agricole, c'est tant mieux. Il sait me mettre en garde quand tu vois ce que ça te rapporte et au prix que tu le payes, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin. Et travailler à perte, il l'a fait pendant des années, il le fait encore maintenant. Hein. C'est pas possible, c'est plus une vie.
Maxence est passionné par l'agriculture, mais pas question de reproduire ce schéma. Il ne veut pas travailler 15 heures par jour pour finir dans le rouge à la fin du mois.
Pour moi, c'est le bon choix parce que c'est une passion, mais j'ai envie d'avoir une vie à côté. C'est pas parce que je suis agriculteur que je dois plus voyager, que je dois plus avoir de semaines de vacances.
Il reconnaît avoir peur de l'échec, mais pour lui, son métier est indispensable et ne peut pas disparaître.
Que certaines productions disparaissent parce que réchauffement climatique, ça je peux l'entendre, mais tout le reste, enfin, je vois pas comment on peut réduire le nombre d'exploitants tout en ayant une souveraineté alimentaire respectée.
Tout à la fois patron, comptable, vétérinaire, pour nourrir la France, comme il dit, il sait qu'il devra devenir un vrai couteau suisse.
Romy Azoulay pour Europe 1. Dans l'actualité également, des menaces tarifaires qui sont jugées inacceptables par Emmanuel Macron. Il vient de réagir sur le réseau X aux menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur les pays européens, accusé, je cite, de jouer un jeu dangereux. Pays européen qui recevrait ces droits de douane jusqu'à la vente totale du Groenland, une surtaxe de 10% qui serait appliquée dès le 1er février. À noter que des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes du Danemark, notamment à Copenhague, la capitale, et à Nuuk, celle du Groenland, pour dénoncer les intentions de Donald Trump de s'emparer du Groenland.
Et le président américain qui menace ce soir donc d'imposer de nouveaux droits de douane.
20h05 sur Europe 1, les contours du budget 2026 qui se précisent. Après l'échec de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée, Sébastien Lecornu va devoir choisir entre le 49.3 et les ordonnances pour faire passer son budget. Le Premier ministre qui a annoncé hier soir depuis Matignon un ensemble de mesures négociées avec le Parti Socialiste, avec un seul objectif, Barthélémy Philippe, éviter la censure du gouvernement.
Oui, le Premier ministre a promis de tenir l'objectif d'un déficit public à 5% du PIB maximum fin 2026. Et pourtant, en dehors des baisses de crédits pour les ministères, qui épargnent d'ailleurs les armées, l'intérieur, la justice et l'éducation nationale, il a annoncé de nouvelles dépenses publiques, avec d'abord un coup de pouce pour les ménages payés au SMIC, ou juste au-dessus.
Plus de 3 millions de ménages seront désormais garantis de gagner plus à la fin du mois. Ils verront leur prime d'activité augmenter en moyenne de 50 euros par mois. Le gouvernement s'y engage.
Le Premier ministre a par ailleurs confirmé la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu par rapport à l'inflation. Il a annoncé la création de 2000 postes dans l'éducation nationale, le maintien de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités, la généralisation du repas à 1 euro pour tous les étudiants à partir du mois de mai. Enfin, face à la crise du logement, Sébastien Lecornu a promis une rallonge de 400 millions d'euros pour les bailleurs sociaux, ainsi que la relance du dispositif MaPrimeRénov' dès l'adoption du budget.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et ces annonces n'ont pas manqué de faire réagir les oppositions. Si le PS, associé aux discussions, voit de réelles avancées, les Républicains appellent de leur côté à la prudence. La France insoumise et le Rassemblement national continuent de plaider pour la censure. Marine Le Pen qui rejette notamment en bloc les nouvelles propositions gouvernementales au motif qu'elles vont encore aggraver le déficit. À l'étranger, c'est une nouvelle étape dans le plan de paix pour Gaza porté par les États-Unis. Un peu plus de 3 mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël, le plan américain entre dans sa deuxième phase avec le lancement d'un conseil pour la paix, une instance qui devrait être présidée par Donald Trump. Bonsoir Wilfried De Villers.
Bonsoir Mel, bonsoir à tous.
Ce conseil commence donc à prendre forme avec un président des États-Unis qui a invité plusieurs dirigeants à y siéger.
Oui, Donald Trump le promet avec sa verve habituelle. Ce sera le plus grand et le plus prestigieux conseil jamais assemblé. Autour de la table, il a notamment invité son allié régional Javier Milei, le président argentin, et le premier ministre canadien Mark Carney. Ils devraient tous les deux accepter de participer à cette instance internationale pour Gaza. Le britannique Tony Blair, ex-premier ministre, a lui aussi confirmé sa présence. Invitation lancée également aux présidents turcs et égyptiens Recep Tayyip Erdogan et Abdel Fattah al-Sisi qui disent étudier la question. Des dirigeants qui rejoindront Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, ainsi que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, et Steve Witkoff, conseiller spécial de la Maison Blanche. Un conseil pour la paix qui prend donc forme et qui sera appuyé par une force internationale de stabilisation. Elle doit être déployée prochainement dans Gaza. Objectif, sécuriser l'enclave et former des unités de police palestinienne dans un temps plus long, alors qu'aucune échéance concrète n'a pour le moment été fixée officiellement. Cette deuxième phase du plan américain prévoit la démilitarisation complète de Gaza ainsi que sa reconstruction. Reste que Benjamin Netanyahou conteste ce soir la composition d'une partie du Conseil de la paix pour Gaza qui va, selon lui, à l'encontre de la politique israélienne.
Wilfried De Villers pour Europe 1. Au Proche-Orient, toujours, le ton est monté d'un cran aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis. Le guide suprême iranien accuse Donald Trump d'être coupable de la mort des manifestants opposés au régime. Il affirme que son but, celui de Donald Trump, serait la domination militaire, politique et économique de son pays. Plusieurs rassemblements ont eu lieu cet après-midi en France au soutien au peuple iranien à Paris, Marseille, Lyon ou encore Nantes. Je vous parlais tout à l'heure du Groenland et des montagnes du Groenland. On revient à présent à celle d'Europe continentale. La prudence ambulanciers particulièrement requises avec un début d'année meurtrier pour cause d'avalanche. 5 personnes sont mortes en Autriche aujourd'hui. Hier, c'est un Allemand qui a été tué dans les Alpes suisses. Et le week-end dernier, 6 autres personnes avaient perdu la vie, cette fois côté français. Alors ce manteau neigeux toujours aussi fragile avec de fortes chutes de neige et puis un redout, ça donne un risque d'avalanche qui est désormais à 3 sur une échelle de 5. Sur le domaine skiable, vous êtes toujours en sécurité. Mais en hors-piste, c'est à vos risques et périls avec malgré tout quelques règles de base qui existent, des conseils qui pourraient bien tout changer, Cyril Delamorinerie.
Premier conseil quand on souhaite faire du ski hors piste, se renseigner auprès des professionnels de la montagne sur place afin de vérifier les conditions météo et les risques d'avalanche. Il ne faut jamais se lancer dans une pente enneigée sans préparation, alerte Olivier Béguin, président de la compagnie des guides de Saint-Gervais-Mont-Blanc.
On arrive au sommet des remontées mécaniques, il y a une petite trace de fête dans un coin, oh, il y a une trace, boum, on y va. Et on n'est pas équipé, on ne connaît pas le manteau neigeux, on n'a aucune expérience. Et puis hélas, ça se termine tragiquement.
Un bon équipement peut sauver des vies. Il faut prendre une pelle, une sonde et porter un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, explique ce guide de haute montagne.
Un DVA, c'est un appareil électronique que l'on porte sur soi. Cet appareil, il émet des ondes. Et lorsque quelqu'un est recouvert, le service des pistes ou les amis du groupe se mettent dans une situation de recherche et peuvent ainsi déterminer assez vite, dans la mesure où ils ont appris à s'en servir, à retrouver une personne ensevelie.
Car les chances de survie d'une personne ensevelie dans une avalanche diminuent très rapidement. Au-delà de 15 minutes, elles deviennent très faibles. C'est pourquoi il est vivement conseillé d'être accompagné par un professionnel de la montagne qui pourra proposer des sorties sécurisées.
Cyril Delamorinerie pour Europe 1, merci.
Merci Maëlle Laurent. Et tout de suite, c'est la météo avec vous, Estelle Lafont. L'Hérault qui est placé en vigilance orange, puis inondation jusqu'à demain 18h, ma chère Estelle.
Oui, on s'attend sur la zone à 100, voire 120 mm cumulés en 24 heures en plaine et entre 180 et 220 mm sur les hauteurs, d'où la vigilance. Le vent d'ailleurs présent sur le golfe du Lion et les côtes varoises s'intensifie pour atteindre demain des pointes à 80, voire 90 km/h. Le tout sous les orages, donc il ne fera vraiment pas bon mettre son nez dehors demain non plus. À l'arrière, maintenant que c'est passé, il pleut un petit peu moins sur le Var et la Provence. En revanche, sur la Corse, ça se gâte bien, surtout sur la façade est de l'île de Beauté avec des pluies soutenues toute cette journée de dimanche. Sur une bonne moitié ouest du pays, demain, on aura un ciel assez foncé, n'amenant que de toutes petites pluies anecdotiques, côté Bretagne ou Limousin. On a aussi une espèce de zone intermédiaire entre la Haute-Normandie et le sud du Morvan, avec un ciel qui laissera passer quelques éclaircies. Et puis des brouillards au réveil sur le Lyonnais, l'Alsace et le Val-de-Saône. Côté température, elle varie entre moins 2 degrés et 2 degrés sur le nord-est et entre 2 et 8 sur le reste du pays.
Merci Estelle Lafont. Restez avec nous, chers auditeurs. Dans quelques instants, j'accueillerai mes débatteuses de la deuxième heure. Charlotte Dornelas et Sarah Salman. Mon invité sera à 20h15. Alexandre Devecchio, journaliste, auteur de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayard. Vous allez voir, c'est passionnant de discuter de ces sujets. Qu'est-ce que c'est devenu en 40 ans, justement, l'assimilation, les questions de l'intégration avec le journaliste donc du Figaro, Alexandre Devecchio. Et puis on reviendra sur le ton qui monte entre les pays européens, Emmanuel Macron et Donald Trump, qui menacent ces mêmes pays de nouveaux droits de douane pouvant aller jusqu'à 25% sur les produits d'une série donc de pays européens jusqu'à la vente totale du Groenland. Emmanuel Macron vient de lui répondre que ces menaces tarifaires étaient inacceptables. On en parle dans quelques instants sur Europe 1.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 Matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
Vous sortez du yoga. Vous avez fait le cobra. Le chien tête en bas, l'aigle qui pleure. Et il fait presque beau. Là, on est détendu. Trop détendu pour aller au supermarché? Alors vous commandez sur Deliveroo vos courses et produits frais livrés chez vous en quelques minutes. Et namasté.
Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Les délais de livraison peuvent varier. Service selon disponibilité géographique et soumise à conditions. Frais applicables, voir sur Deliveroo.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à Riz?
Tout à fait. Moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais,
ouais. Faites plaisir à tous les gourmands. Car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à Riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc.
Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Europe 1 Soir Week-end.
19h-21h, Stéphanie Demureux.
Merci de nous rejoindre dans Europe 1 Soir Week-end, deuxième heure. J'accueille mes débatteuses. Je suis ravie. Deux femmes ce soir. C'est, une fois n'est pas coutume.
Charlotte pour votre anniversaire, Stéphanie.
Oui, c'est ça. Merci. Journaliste au JDD, ma chère Charlotte. Il paraît que vous faites des gâteaux à chaque anniversaire.
Bah oui, et j'en ai même pas fait pour vous. C'est la honte.
Bah écoutez,
mais la prochaine fois, je me rattraperai.
Un kougouloup, je veux. Vous savez,
ah oui,
c'est la spécialité alsacienne.
Bah oui, je sais, mais je suis pas alsacienne, moi. Donc ça va être...
Sarah Salman, avocate au barreau de Paris. Bonsoir Sarah.
Bonsoir Stéphanie, bon anniversaire.
Merci, merci. Mon invité, Alexandre Devecchio, journaliste que vous connaissez bien dans les studios d'Europe 1 et de CNews, journaliste au Figaro, auteur de Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayard. J'espérais que vous m'offriez votre livre que j'ai lu, mais alors en PDF, parce qu'il est en rupture de stock.
Vous l'avoir...
Non, non, je l'ai eu en PDF, bien sûr. Mais rupture de stock, mon cher
Alexandre.
Bonsoir,
j'en profite pour dire aux auditeurs de patienter, puisque apparemment il est plus possible de le commander sur Amazon. Je crois que c'est très compliqué sur la Fnac, mais il reste heureusement les librairies. Donc allez en librairie,
c'est le signe du succès.
Et bah surtout, oui, il va sans doute y avoir du réassort très vite, donc ce sera disponible lundi.
Victime, voilà. Victime de votre succès,
il semblerait.
Ouais. Alors nous vivions côte à côte, et je crains que demain nous ne vivions face à face. Vous êtes parti de cette phrase évidemment prononcée par Gérard Collomb. Pourquoi vous êtes parti de cette phrase? Qu'est-ce qui vous a donné le point de départ?
Le point de départ, il vient de mon expérience personnelle. C'est un livre assez intime, mais c'est vrai que la phrase de Gérard Collomb a fait écho, en fait, à ce que j'ai vécu. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine et à Saint-Denis, et j'ai vu le paysage se transformer. Alors, le vivre ensemble n'a jamais existé. Je considère que c'est un slogan publicitaire politiquement correct.
Jamais, mais, même quand vous étiez petit, justement.
Même quand j'étais petit, il y avait déjà des tensions, il y avait déjà la montée de l'insécurité, mais c'est vrai que il y avait encore une possibilité de côte à côte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le face à face, et ni le vivre ensemble. Et petit à petit, justement, on a basculé dans le face à face, sur fond de bouleversement démographique, sur fond de montée du communautarisme, de l'islamisme. Donc j'ai voulu décrire les mécanismes qui nous ont conduits justement dans ce face à face, mais aussi pour poser le bon diagnostic et pour peut-être trouver les moyens d'en sortir, parce que c'est effectivement pas un livre de déploration, mais c'est un livre malgré tout combatif.
Oui, et puis vous nous prédisez pas non plus une guerre civile quand même. Mmh. Vous essayez quand même d'être optimiste et de dire on peut éviter cette guerre civile quand
oui,
même.
Oui, je crois que vraiment le grand drame de ces 40 dernières années, ça a été l'invisibilisation, voire le mépris des classes populaires. En fait, j'ai essayé de raconter une contre-histoire de la banlieue. La banlieue a souvent été racontée du point de vue de ceux qui cassaient, de ceux qui brûlaient des voitures, qui étaient considérés comme les victimes de cette histoire. Or, il y a toute une France oubliée qui vit dans ces quartiers-là, qui aimerait vivre en paix et qui a subi cette insécurité à la fois physique et culturelle. Donc j'ai voulu regarder cette histoire avec leurs yeux à eux et aussi leur redonner de la dignité et de la fierté, parce que je crois qu'on ne s'en sortira qu'en redonnant de la fierté et de la dignité aux classes populaires, parce que l'intégration, l'assimilation, elle se fait aussi avec un modèle de référence, et celui-ci ne peut être que ces gens ordinaires qui habitent dans ces quartiers, qui peuvent servir de modèle, et aussi qui exerçaient autrefois un contrôle social. Or, on les a traités de racistes, et donc elles ne peuvent plus exercer ce contrôle social-là.
Oui. Vous dites d'ailleurs, la réalité a été disqualifiée comme un ressenti, et les classes populaires ont été sommées de se taire.
Exactement, oui. Elles ont été, on les a traitées de bouffes, de racistes, de xénophobes. Or, je pense que leur parole aura été nécessaire, parce que je vous dis, c'est un plaidoyer aussi pour l'assimilation. Ce livre, l'assimilation se fait par le haut. Il aurait fallu que l'État véhicule à travers l'école, à travers sa politique, une forme de fierté, un récit national. Mais ça se fait aussi par le bas. justement avec par le voisinage, par l'assimilation concrète, la transmission. Et cette transmission a été rendue impossible parce qu'on a culpabilisé tous ceux qui disaient « attention ». Mon quartier change, il n'y a plus que des boucheries communautaires, je vois une violence qui s'exerce et qui est une violence identitaire, communautaire. Tout ça, on n'a pas voulu l'entendre, on a dit c'est du racisme, ça va bien se passer, oui. On va vers un nouveau monde multiculturaliste. En réalité, on a été vers un nouveau monde multiconflictuel.
Est-ce que, malheureusement, ce n'est pas trop tard, cette assimilation, on le constate tous les jours, il y a beaucoup d'immigration avec des cultures et des religions différentes. Est-ce que la partie n'est pas jouée ?
Vous avez dit le mot immigration, parce que je crois quand même que la première cause de cette désintégration que j'ai vécue et que les classes populaires ont vécue, c'est l'immigration de masse. C'est-à-dire que l'assimilation est possible à partir du moment où vous assimilez des individus. Quand vous assimilez des peuples pour prétendre, enfin, je pense qu'il est impossible en fait d'assimiler une immigration qui est trop massive. Donc la première clé pour s'en sortir, c'est effectivement arrêter cette immigration de masse, ou du moins la diminuer drastiquement. Il n'empêche que même si on arrêtait demain les flux, effectivement, vous l'avez dit, il y a des immigrés qui sont présents. Il y a même des gens qui sont des Français de deuxième ou troisième génération qui se désassimilent et qui se désintègrent. Et donc là, je vois assez peu de solutions. Je ne crois pas à la remigration pour des personnes qui sont là, qui ont la nationalité française et qui sont de la troisième génération. Je ne vois que de renouer avec cette politique d'assimilation. Il y aura peut-être une génération de perdus, mais il faut gagner absolument la suivante. Et moi, je crois quand même beaucoup au récit et à la psychologie. Et je pense que beaucoup des jeunes que j'ai côtoyés, qui étaient dans un conflit de loyauté, dans un conflit identitaire, recherchaient de l'identité, de l'autorité, et que si on n'avait pas abandonné cette transmission par le haut et par le bas, eh ben c'était la partie était gagnable. Donc
c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'allais vous poser la question. Vous avez été au lycée à Épinay-sur-Seine avec ces jeunes de deuxième, troisième génération qui aujourd'hui, on le voit malheureusement, on le constate, qui n'aiment pas forcément la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous les avez vus, si j'ose dire, pardonnez-moi, c'est la familiarité vriller ? À quel moment
ça
s'est fait ?
Oui, c'est pas de la familiarité, c'est effectivement ce que ce jeu décrit écrit par petites touches. Alors il y a eu des tournants, le 11 septembre on en a été un, parce que je disais tout à l'heure que la question de l'islam est venue dans un deuxième temps, et paradoxalement elle est venue après le 11 septembre. On aurait pu croire que les musulmans, au contraire, crient pas en notre nom. Et malheureusement, le 11 septembre a été synonyme de réislamisation pour une partie de la jeunesse des quartiers. Ils se sont identifiés à ceux qui ont attaqué l'Occident. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui s'est dressée contre la France. On le voit de manière tragique, on l'a vu avec le phénomène djihadiste, avec le terrorisme, et de manière moins tragique, on le voit lors des matchs de foot, on le voit à travers une insécurité qui souvent est teinté d'une forme de racisme anti-français.
Et le 7 octobre, avec la montée de l'antisémitisme, aussi dans
exactement,
les quartiers.
Ça va de pair, la francophobie et l'antisémitisme. Et donc, je les ai vus effectivement vriller, et je crois qu'il y a des causes objectives comme les entrepreneurs identitaires, les frères musulmans, mais il y a aussi ce qui a été délétère, il y a l'environnement familial, hein, je disais, quand l'émigration est trop massive, ils viennent des pays étrangers avec leurs codes socioculturels, et c'est très difficile quand ils arrivent dans un milieu homogène qui n'est pas français de s'assimiler. Donc ça, ce sont des causes, mais il y a eu aussi toute l'influence délétère, je vous disais, d'un antiracisme dévoyé qui était en réalité un antiracisme anti-français, un antiracisme victimaire, et qui a donc enfermé des jeunes qui étaient peut-être dans un conflit de loyauté, dans une difficulté à trouver leur identité, dans des identités de substitution. Quand on répète à une certaine jeunesse que la France est raciste, comment voulez-vous qu'elle s'intègre et qu'elle s'assimile ?
Vous dites d'ailleurs, mon grand-père appartenait à la génération de l'assimilation, puisque vous avez un grand-père italien, une maman portugaise, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Mes parents à celle de l'intégration et moi à celle de la désassimilation. Alors c'est quelque chose qu'on partage justement, puisque mon père est italien, et c'est vrai que on ne nous parlait pas italien. Hein. Enfin, vous, c'était votre grand-père, moi, mon père.
Oui, alors, il fallait
s'intégrer. Hein.
Moi, c'était... je suis le résultat d'une assimilation, mais je ne le suis pas moi-même, puisque je suis de la troisième génération pour ce qui est de mon grand-père italien. Mais c'est vrai que...
Il n'était pas question de ne pas s'intégrer,
voilà, j'ai voulu raconter son histoire, l'histoire des Italiens qui sont arrivés. Lui, il est arrivé au début du siècle. Mmh, mmh. C'était effectivement une assimilation à la dure, avec une France, on dit qu'elle est raciste aujourd'hui, je crois que ce n'est pas du tout le cas, mais à l'époque, il y avait un peu de xénophobie. On parlait des L'héritage, c'est devenu presque un titre de gloire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une véritable insulte.
Barzotti
est passé par là. Alors, je vous raconterai une anecdote tout à l'heure sur Barzotti et mon grand-père. Mais on voit, quand on voit les travaux de Pierre Milza, qu'au début du siècle, il y a même eu des pogroms contre les ouvriers italiens. Donc, il y avait une forme de xénophobie. Alors, je ne dis pas ça de manière plaintive, parce que justement, mon grand-père a décidé de rester, d'adopter pleinement les codes socioculturels français, au point... De renoncer à une partie de son identité. Vous l'avez dit, il n'a pas transmis la langue à ses enfants. Alors c'était peut-être excessif, parce que moi j'aurais bien aimé parler italien, ou que mon père sache parler italien, mais ça avait une vertu, c'est-à-dire que ça permettait de surmonter ce conflit de loyauté. Il y avait un choix à faire, et ça a permis à mon père de devenir pleinement français, et à moi de connaître une forme d'ascension sociale, puisque mon grand-père est venu d'un milieu assez modeste. Donc c'était quelque chose d'efficace. Je ne sais pas si on peut reproduire exactement le même modèle, mais je crois qu'on a eu tort d'y renoncer.
Charlotte Dornelas.
Mais justement, c'est un passage très... Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas un livre plaintif, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment l'itinéraire... En fait, c'est l'itinéraire qui part d'une famille qui est, choisit une forme de dépossession. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai trouvé très beau, justement, dans le récit du grand-père,
absolument,
c'est qu'il y a quand même un moment, un choix qui est fait, et qui est fait vis-à-vis de la France. C'est pas à la France de s'adapter. En fait, c'est moi. Est-ce que je reste ou pas? Et a priori, la France n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de la France. Enfin, je le résume un peu comme ça. Donc, il y a une dépossession voulue pour se réenraciner, et que donc tout le monde ne soit pas dépossédé de manière subie. Et c'est un peu l'itinéraire. Vous disiez tout à l'heure. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait la question de est-ce que une partie de l'immigration, de la descendance de l'immigration, a vrillé. Alors, certes, il y a un vrillage volontaire ou individuel, ou même collectif, en l'occurrence, en ce qui les concerne. Mais c'est le même moment où les élites françaises, depuis X générations, ont elles aussi vrillé dans leur rapport à la France. La désassimilation française en France des Français de X générations s'est faite au moment où, en effet, le nombre rendait l'assimilation déjà compliquée.
Les années touche pas à mon pote. Ces années ont été un peu tout ça.
Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans votre famille, la question s'est posée sur une immigration déjà européenne. Et on voit que déjà, il y a des questions d'intégration, de cohésion et donc d'assimilation qui se posent. Est-ce que dans votre entourage à Épinay-sur-Seine, la défiance d'une partie de l'immigration était la même dans l'immigration extra-européenne ou européenne ?
Alors je vais vous répondre. À mon livre est pas du tout démagogique. D'abord j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit sur le choix d'une dépossession pour les immigrés italiens. Certains n'ont pas réussi. Et il faut rappeler toujours que 2/3 sont partis, ce qui est énorme.
C'est qu'on l'oublie, ça.
Ouais, bien sûr.
Donc pour dire, vous avez raison. Moi je crois que le déracinement est douloureux, compris pour un pays aussi proche d'une autre qu'est l'Italie. Donc vous imaginez pour des pays d'une culture extrêmement lointaine. Donc je suis pas démago, je pense que c'est pas la même chose, que c'est beaucoup plus dur d'assimiler quelqu'un qui vient de plus loin, et par ailleurs quelqu'un qui ne vient pas d'une culture chrétienne, puisqu'on est malgré tout la culture européenne est une culture chrétienne, l'islam est une autre civilisation. Donc je pense que c'est compliqué, je pense que c'est pas impossible, je connais plein de personnes qui ont réussi, mais effectivement c'est plus simple. C'est pour ça qu'on aurait dû être beaucoup plus prudent sur les flux migratoires. Et après, il y a la question coloniale et post-coloniale qui entre en jeu. Là encore, ça ajoute de la complication, parce que je raconte plusieurs parcours de franco-algériens. Leurs parents leur disent même ne vous assimilez pas, faites comme les Français, mais ne devenez jamais Français, n'oubliez pas d'où vous venez. Il y a cette histoire de la guerre d'Algérie. Donc c'était extrêmement compliqué. Et en plus, on l'a exacerbé. Moi, c'est là où je suis en colère. Ce livre n'est pas absolument pas contre les immigrés, parce que je considère que ils ont joué leur carte en voulant venir ici. Par contre, nos élites, en tenant un discours pseudo décolonial, justement expliquant, noircissant l'histoire de France, ont participé de l'enfermement identitaire de cette jeunesse-là. Donc, tout ça va être très compliqué, mais si on arrêtait en plus de se mettre des bâtons dans les roues, ce serait déjà pas mal.
Alexandre Devecchio, malheureusement le temps file, je voulais vous faire réagir aussi, parce que vous parlez, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de ce mépris de classe et ces classes populaires. Vous avez vu ces commentaires et cet article du Monde de Jordan Bardella. D'ailleurs, j'ai appris que vous étiez dans le même lycée.
Le même collège,
les mêmes, les mêmes origines italiennes.
À 10 ans d'intervalle, mais on a été dans le même collège.
Je me permets d'en parler, c'est pas pour justement sinon je n'en aurais pas parlé, mais le RN réagit et fustige l'article du Monde, justement pour atteinte à la vie privée, sur la vie privée, en l'occurrence de Jordan Bardella, qui a été aperçu aux côtés d'une héritière, Maria Carolina de Bourbon des deux Siciles, une grande famille royale italienne. Et alors, c'est vrai que j'ai lu l'article, c'est assez édifiant ce que raconte le Monde. On lit: l'eurodéputé peut ainsi brouiller son image de personnalité authentique, proche d'une France que les élites méprisent. Mais à quoi joue Jordan, en gros, parce qu'il vient des classes populaires.
Il n'aurait pas le droit de tomber amoureux. C'est quand même incroyable.
C'est incroyable.
Et ça résume en fait une maladie bien plus large de la gauche, parce que la gauche était normalement pour la méritocratie, pour l'émancipation sociale, et elle est, encore une fois, c'est pour l'enfermement identitaire.
Oui, c'est ça.
Et l'enfermement social, parce qu'en réalité, vous venez d'une classe sociale, vous n'avez même pas le droit d'en changer. Vous avez une identité d'origine, vous n'avez pas le droit d'en changer.
Les classes défavorisées,
et vous n'avez maintenant même plus le droit de tomber amoureux de quelqu'un qui a une classe sociale différente.
On n'en est pas là. L'histoire ne dit pas s'il est amoureux.
Peut-être une origine différente, je ne sais pas. Ils sont contre les mariages mixtes aussi.
Donc, c'est ça. Venant d'un journal de gauche, je suis un petit peu étonné.
Voilà. Donc moi, je vous avouerai que je n'étais pas spécialement de droite sur le plan social, mais je me suis éloigné totalement de la gauche parce que je ne supportais plus ce mépris de classe et cette. Cette assignation demeure à la fois identitaire, sociale. Alors que précisément, la gauche, ça devrait être l'inverse de cela.
L'histoire ne dit pas s'il est tombé amoureux. Attention,
mais supposons qu'il le soit. En tout cas, c'est ce que raconte le Monde. Supposons qu'il le soit, tant mieux pour lui.
Bon, merci en tout cas, Alexandre Devecchio. C'était un plaisir. Ça a filé. Et puis, bon, cherchez votre livre en librairie.
Ou attendez un peu, mais en tout cas, ça va revenir à la vente.
On peut le commander quand même.
Je crois qu'il est difficilement commandable, ce qui rend la chose
Nous vivions côte à côte, itinéraire d'un petit blanc de banlieue aux éditions Fayette.
Travailler les libraires, je suis pour le petit commerce.
Absolument, c'est très bien.
À condition qu'ils jouent le jeu, parce que certains cachent certains livres. Donc voilà.
Bon, merci à vous, Alexandre. 20h31 sur Europe 1, et c'est le point sur l'actualité avec vous, Maëlle Laurent.
Les menaces de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui s'opposent à l'annexion du Groenland sont inacceptables. Propos ce soir d'Emmanuel Macron sur le réseau X, qui promet de faire respecter la souveraineté européenne. Un peu plus tôt, le président américain a menacé plusieurs pays européens, dont la France, notamment d'une surtaxe de 10% applicable dès le 1er février, et ce, tant que le Groenland ne sera pas intégralement vendu aux États-Unis. La présidente de la Commission européenne se félicite, elle, de voir le commerce juste triompher de ses droits de douane. Réaction à l'accord de libre-échange officiellement signé aujourd'hui entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un peu avant 18h heure française. Ursula von der Leyen, qui avait fait le déplacement jusqu'au Paraguay pour l'occasion. Rassemblement ce samedi dans plusieurs villes de France, Paris, Lyon et Marseille notamment, en soutien à la contestation iranienne sur place. Les manifestants ont été formellement menacés par le guide suprême iranien. Il indique vouloir briser le dos de ceux qu'il appelle des séditieux, tout en imputant les victimes de ce mouvement de contestation à Donald Trump. Et puis on en sait un peu plus sur le Conseil de la paix palestinien pour Gaza voulu par Donald Trump. Y siégeront son chef de la diplomatie, Marco Rubio, ou encore Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique. Proposition faite également par le président américain à ses homologues turcs et égyptiens, un comité dont les membres ne satisfont ni Israël ni le djihad islamique. Et puis un mot de météo en France, le département de l'Hérault placé en vigilance orange, pluie et inondation depuis la fin d'après-midi et jusqu'à demain soir. Vigilance orange étendue à la Corse pour la journée de dimanche. Des risques de crues également pour l'Hérault et pour l'Aude également pour le reste du week-end.
Merci Maëlle Laurent, on se retrouve à 20h45 pour un point sur l'actualité.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demuru.
Un duo de débatteuses 100% féminin ce soir. Féminine. Sarah Salman, Charlotte Dornelas, on a entendu le point sur l'actualité de Maëlle Laurent. Donald Trump, bon, c'est plus des muscles hein, qu'il sort. Là, c'est vrai qu'on peut commencer à s'inquiéter. Donald Trump qui veut mettre ses menaces à exécution, imposer de nouveaux droits de douane. Alors, ça peut aller jusqu'à 25% sur les produits d'une série de pays européens, jusqu'à la vente totale du Groenland. Il l'annonce sur son réseau social en indiquant donc la date du 1er juin. Emmanuel Macron qui répond ce soir, aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ni en Ukraine, ni au Groenland. Les menaces tarifaires sont inacceptables. Ça barde, Sarah Salman.
Je ne suis pas sûre que Donald Trump soit effrayé par les déclarations de M. Macron, hein, très honnêtement. Après, c'est quand même un peu singulier ce que fait Donald Trump. Enfin, moi, je n'étais pas du tout pour le Venezuela, ce qu'il a fait, mais là, encore moins. Je rappelle que les deux font partie de l'OTAN, donc je ne sais pas ce qu'il fait de cette alliance. Manifestement, il s'assoit dessus. Enfin, c'est une situation assez inédite, mais en plus, il n'écoute absolument personne, puisque aux États-Unis, la majorité de la population est contre. Là, il n'a même pas l'excuse qu'il avait pour le Venezuela.
Même chez les Républicains.
Oui, y compris chez les Républicains, effectivement.
C'est vrai que Charlotte Dornelas, si on n'avait pas tendance à le prendre au sérieux, on ne s'inquiéterait pas. Mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant, ces déclarations.
Quand on connaît, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. En effet, quand vous voyez que d'abord, le Groenland n'a pas été cité une seule fois dans la campagne présidentielle américaine, ça n'a jamais été un sujet, si ce n'est au moment où Donald Trump est élu et qu'il parle d'abord d'un deal quasiment personnel avec le Groenland, tout le monde le prend à la blague et ça devient une obsession chez Donald Trump, c'est clair ces derniers temps, contre l'avis de la population américaine, mais surtout à l'intérieur de son parti, de plusieurs sont allés le voir pour lui expliquer qu'il ne comprenait pas, on va dire, ce ressort. Et moi j'ai entendu, et ça m'a semblé pas complètement idiot comme hypothèse, dans son entourage, de gens qui précisément expliquent que Donald Trump essaye d'affaiblir considérablement l'OTAN, auquel il n'a jamais souscrit. Il n'a pas arrêté de dire aux Européens qu'il fallait payer plus, les États-Unis allaient arrêter de payer pour la sécurité des Européens, qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron qui parlait il y a quelques années de l'OTAN en état de mort cérébrale quand même. Donc on en était là à ce moment-là. Donc est-ce que c'est finalement l'objet, on va dire, du divorce consumé sur le sujet du Groenland? Peut-être. La deuxième chose, c'est que en effet, Emmanuel Macron répond en disant c'est inacceptable. Vous savez, il le dit aussi beaucoup sur le terrain français. Hein. On peut ne pas être expert en géopolitique et se rendre compte que nos autorités passent leur temps à expliquer que c'est inacceptable et que malheureusement, on continue non pas à l'accepter,
mais à le subir. Parce que c'est compliqué quand on a un personnage comme ça.
Le problème, c'est que
c'est la fin de l'OTAN après.
Mais il y a la question de la fin de l'OTAN, mais il y a plus grave. Enfin, je veux dire, il y a pas seulement la question de la fin de l'OTAN qui se joue ici. C'est la question de la puissance européenne, française évidemment, même européenne, à l'échelle du monde. Dans le rapport de force, puisque ça n'est plus que ça, qui est en train de se dessiner partout sur le globe. Et on voit bien, moi il y a une image qui m'a absolument fascinée ces derniers jours, c'est qu'au moment où tous les empires se reconstituent, en tout cas dans la parole et dans la manière de se positionner, c'est vrai de l'Inde, en passant par la Turquie, par la Russie évidemment, par les États-Unis, vous avez Ursula von der Leyen au Paraguay qui se réjouit d'un accord de libre-échange et qui explique à la tribune que ça n'est que le début d'accords de libre-échange plus vastes encore, elle évoquait notamment l'Inde. Et on voit bien que l'Europe est restée sur une vision du monde et de sa place dans le monde des années 90 aux années 2010, on va dire, et que le reste du monde change.
Vous avez raison, Charlotte. D'ailleurs, j'allais y venir à cette image un petit peu décalée. Il n'empêche, quand on voit ces puissances qui sortent de l'état de droit, est-ce qu'on emploie finalement les mêmes méthodes? C'est ça, vous qui êtes avocate, juriste, Sarah Salman.
Il s'assoit complètement sur le droit international. Après, il y a un moment, soit on estime que la jurisprudence du droit international doit évoluer, et c'est ce que lui peut-être met en avant par rapport au Venezuela, et encore, moi je trouve ça très discutable, soit on estime qu'il faut des sanctions, lesquelles, bon, ça...
lesquelles et les sanctions, c'est
le parti, elles sont inefficaces. Charlotte a raison, c'est le parti.
Parce que la question du droit international, qui est en effet la version internationale de l'état de droit en France, il y a la question de l'évolution qui peut se poser collectivement, mais là, on n'est pas dans une discussion collective sur l'évolution possible du droit et des règles de droit qui s'imposent à la communauté internationale. On a de plus en plus de pays qui s'en affranchissent ouvertement,
oui, c'est ça.
Qui revendiquent cet affranchissement, et on revient. Et nous, ce qu'il faut que les Européens comprennent, qu'il faut que nous, on comprenne, c'est que la gestion du monde par le droit international et dans une autre mesure par le commerce était une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. On est en train de revenir à des rapports de force dans lesquels l'Europe a du mal à se positionner parce qu'en effet, nous, on réagit sur le terrain qui est le nôtre, à savoir celui du droit international. Et en effet, on peut commenter toutes les dernières décisions, notamment de Donald Trump. Bon, alors après, l'histoire des Américains avec le droit international,
c'est un peu
franchement, on peut faire un livre en 9 tomes,
oui,
hein,
en effet.
Même sur ces dernières années. Donc cette question-là, aujourd'hui, moi, je pense que la question fondamentale qui se pose à l'Europe, qui réagit en effet de manière guerrière, brutale, dans les déclarations ces derniers jours, et sans doute à raison par rapport à l'idée que l'on se fait, en effet, des interventions ici et là du président américain ou même d'autres pays actuellement qui font l'actualité internationale. Mais la question qu'il faut qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on propose dans cette nouvelle configuration? Honnêtement, il faut qu'on soit un peu réaliste sur notre puissance.
Oui.
On ne peut rien faire sans les Américains en Ukraine.
On voyait 15 militaires au Groenland, ouais, à ce stade.
C'est plutôt symbolique qu'autre chose.
Mais, hein, mais voyez, oui, mais symbolique de quoi? Moi, c'est ça la question. C'est qu'à la limite, la symbolique peut être importante dans la gestion diplomatique du monde. Donc, mais là, on se dit, Donald Trump qui a entre 150 et 200 soldats à temps plein, et ce n'est pas Donald Trump qui les a, ils y étaient avant lui.
Oui, absolument.
Au Groenland,
absolument.
Ils ont une base militaire. Il explique qu'il veut acheter le Groenland. On pense ce qu'on veut de la situation, mais maintenant, comment on réagit à la réalité de cette situation? Quoi qu'on en pense, comment est-ce qu'on réagit à ça? On réagit sur le terrain militaire en disant on envoie des soldats, évidemment pas pour faire la guerre. On sait pertinemment que si par hasard les États-Unis envahissaient le Groenland, on rappellerait nos soldats immédiatement. Donc en effet, c'est symbolique. Mais symbolique de quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on propose en fait? Ces soldats sont là pour protéger quoi? Quelle est notre place? Comment est-ce que l'Europe se positionne sur le terrain du Groenland, mais de manière plus étendue
le discours
dans le reste
Macron,
du monde
lors des vœux aux armées.
Oui.
Bon, c'est...
Oui.
Voilà
il
la
en
réponse.
Ressort pas grand-chose.
Il en ressort une volonté de puissance, c'est très bien, encore une fois.
Ça fait des années qu'on parle de l'Europe de la défense dont on voit toujours pas le jour.
Ce sont des mots dans les actes, voilà.
Et puis la France de la défense, notre porte-avions, on a un peu besoin des Américains, donc j'aimerais bien savoir ce qui va devenir si les Américains nous tournent le dos et qu'ils ne veulent plus nous vendre ce dont nous avons besoin en matériel américain pour construire ce porte-avions. Vous voyez, ça se pose vraiment dans des. Et par ailleurs, que va-t-on faire du dossier ukrainien si on se brouille avec les États-Unis de manière définitive, notamment à l'échelle militaire? Donc toutes ces questions-là, elles sont nécessaires. Et moi, je vois depuis quelques jours, mais parfois, franchement, ça me fait plus de peine qu'autre chose.
Oui.
Je vois depuis quelques jours des autorités européennes, françaises à notre échelle et européennes plus largement, qui réagissent en s'indignant de la sortie d'un monde que nous sommes les derniers à défendre. Quand le monde entier réagit différemment de vous,
voilà,
vous vous adaptez.
Quand on est mal élevé, est-ce qu'on est en face, vous avez des gens mal élevés qui ne respectent pas les règles, est-ce que vous... c'est la même manière dont on élève ses enfants.
Oui.
Est-ce que vous dites à vos enfants, attention, reste bien élevé et garde tes valeurs.
Je pense que c'est
garde
pas comme
tes valeurs
ça.
Ou tu t'adaptes aux voyous que tu as en face.
Je pense que c'est moins comme ça que la question doit se poser, parce que sinon c'est pareil sur l'état de droit à l'échelle française et ça nous fait péter des câbles tous les jours en fait. Quand on nous explique, on ne peut pas protéger la dame qui vient de se faire agresser, parce que c'est l'état de droit. Bon, ça n'a aucun sens. On se dit, non, la protection de cette dame, je prends un exemple précis pour l'exemple, mais la protection de cette dame vaut que l'on se pose la question de l'évolution. Les règles, elles ne sont pas de droit divin, ni à l'échelle internationale, ni à l'échelle nationale. Donc, elles évoluent, et là, en l'occurrence, elles évoluent par la force et à nos dépens. Donc, on peut continuer. Mais c'est vrai, c'est sans doute malheureux dans beaucoup de dossiers. Simplement, nous, on ne peut pas continuer à dire « Non, mais nous, on préfère faire comme avant. » Mais si plus personne ne fait comme avant et que plus personne n'est d'accord avec les règles qui sont en place, vous devez être force de proposition sur les nouvelles règles.
Et anticiper un minimum, ce serait
anticiper,
bien.
Anticiper, évidemment. Et par ailleurs, avoir la mesure de votre force dans le jeu international. Parce que depuis quelques années, il y a plein de bonnes idées. La coalition contre le Hamas, sauver l'Ukraine, faire la guerre à la Russie et maintenant faire la guerre aux États-Unis.
Oui,
moi, je veux bien.
Mais regardez, on n'arrive même pas à avoir un budget. Alors, on ne va pas rester deux heures sur le budget. Je sais combien vous aimez ce sujet. Ça fait
faible. La France est assez faible, que ce soit à l'échelle du monde ou à l'échelle même de l'Union européenne.
Comment voulez-vous être fort si à l'interne, au national, au niveau national, vous n'arrivez même pas à avoir un budget, vous voyez, une majorité?
Mais même au-delà de ça, sur le Groenland, moi j'aimerais savoir que ce soit Emmanuel Macron, mais je ne suis pas sûre que ce soit une ambition non plus pour Emmanuel Macron dans le Groenland, mais à l'échelle européenne, via le Danemark, quel est le projet? Qu'est-ce que proposent les États-Unis? Ils ont un projet, on en pense qu'on en veut, mais ils ont très clairement un projet, exploiter le Groenland. Les Groenlandais expliquent qu'ils préfèrent aujourd'hui se tenir à l'écart des États-Unis. Le Danemark explique qu'ils veulent garder le Groenland. Et l'Europe défend quoi exactement ? On ne le sait pas.
La souveraineté européenne.
Oui, oui, c'est ce que je comprends aussi.
Oui, mais la souveraineté européenne, pourquoi faire ? Mais oui, c'est ça en fait le problème. C'est que je vois des postures. Et les postures sur le terrain moral, c'est très bien, mais la géopolitique se fait rarement sur le terrain moral. Elle se déguise parfois derrière la morale, mais elle se fait rarement pour cette raison. Or, j'ai l'impression que, notamment en raison de la parenthèse historique gérée par le droit international, que nous avons même peur nous-mêmes de nos propres intérêts. C'est vrai à l'échelle française, c'est vrai à l'échelle européenne. Et donc, on n'arrive déjà pas à les définir et non plus à les acter. Donc moi, c'est ça vraiment qui me frappe ces derniers jours. Et là, honnêtement, et là, pour le coup, ça me fait vraiment de la peine. Quand je vois le président de la République française, quoi que j'en pense par ailleurs, à l'échelle du monde, et c'est lui mon... Enfin, je suis française. Hein. Donc, quand je vois Emmanuel Macron répondre à Donald Trump, c'est inacceptable, en sachant, alors qu'on sait tous, et lui aussi... que si Donald Trump dit « vous êtes mignon, mais en fait c'est comme ça », eh bien ce sera comme ça.
D'habitude, Emmanuel Macron se fait insulter par Donald Trump et il ne répond pas. Donc,
oui, c'est vrai, il répond. Chose, non, mais c'est vrai, il répond. Pas... Non, mais par ailleurs, c'est normal de répondre, que les choses se cachent. Je ne suis pas en train de lui reprocher de répondre.
On lui reprocherait même de ne pas répondre.
Non, mais c'est normal qu'il réponde. Maintenant, que vaut cette réponse ?
Ouais,
bah, c'est ça. Bah oui, mais
non, mais ça vaut rien dans les actes. Donc,
mais c'est vrai que c'est un tel changement d'ordre, hein, parce que là,
ah oui,
en effet,
c'est sûr que c'est un peu l'accélération de l'histoire. Là.
Oui. Oui. Bon, écoutez, et puis en Iran aussi, accélération de l'histoire, même si pour l'instant, pour le coup, Donald Trump ne met pas ses menaces vraiment à exécution. Vous avez vu plusieurs milliers de personnes qui ont manifesté en France. Alors, on est content. On a vu des gens de gauche, tiens, dans les cortèges. Vous avez vu la France insoumise. On va en parler dans quelques instants. Après le point sur l'actualité de Maël Laurent à 20h45 sur Europe 1, Maël.
Des menaces tarifaires jugées inacceptables par Emmanuel Macron. Réaction au nouveau droit de douane voulu par Donald Trump sur les produits issus de plusieurs pays européens, avec notamment une surtaxe de 10% qui serait appliquée dès le 1er février, et ce jusqu'à la vente totale du Groenland. Mesure de rétorsion à l'encontre de ces pays européens qui jouent un jeu dangereux, selon le président américain. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur officiellement signé au Paraguay. C'était il y a un peu plus de 2 heures, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, se félicite d'un accord qui prône, je cite, un commerce juste plutôt que des droits de douane. Il s'agit du plus grand accord commercial jamais signé par les 27. La réaction de Marine Le Pen aux ultimes propositions de Sébastien Lecornu pour bâtir un compromis sur le budget, proposition qu'elle rejette en bloc au motif qu'elles vont encore aggraver le déficit. La chef de file des députés RN à l'Assemblée, qui accuse aussi le PS d'être à l'origine de certaines de ses propositions, de n'être plus que la béquille rouillée et tordue de ce qu'il reste de la Macronie. Fin de citation. Le ton est encore monté d'un cran entre l'Iran et les États-Unis. Le guide suprême iranien accuse Donald Trump d'être coupable de la mort des manifestants opposés au régime. Il affirme que son but est la domination militaire, politique et économique du pays. Plusieurs manifestations ont eu lieu cet après-midi, notamment à Paris, Marseille, Lyon ou encore Nantes, en soutien au peuple iranien. 5 morts aujourd'hui dans des avalanches en Autriche. 4 skieurs hors piste ont perdu la vie après avoir été emportés par une coulée de neige près de Salzbourg. La 5e victime est une randonneuse à ski qui faisait elle aussi du hors piste dans la même zone. Et enfin, on termine avec l'édition 2026 du Dakar qui s'est terminée ce matin. 6e sacre pour le Qatari Nasser El Altia au terme de la 13e étape du circuit. Une course qui avait démarré début janvier et qui se passe désormais dans le désert d'Arabie Saoudite.
Merci Maëlle Laurent. On se retrouve à 20h pour un point complet sur l'actualité.
Europe 1 Soir Weekend.
19h-21h, Stéphanie Demuru.
Et on parlait il y a quelques instants, on l'entendait dans la bouche de Maëlle Laurent, de ces milliers de personnes qui ont manifesté en France en soutien à la population iranienne sous l'oppression de son régime, le régime des Mollahs. Alors on a vu avant le journal permanent, on a vu quelques personnes de gauche, c'est bien, la LFI qui prend le train en route.
Non mais LFI, ils savent très bien manifester, hein. C'est eux d'ailleurs qui manifestent le plus, Place de la République, on les a vus beaucoup pour des manifestations pro-palestiniennes, pour des...
Voilà, ils ont mis le temps, quand même.
Comment ?
Ils ont mis le temps, là, quand même.
Oui, ils ont mis le temps, mais c'est pas les premiers. On va dire que c'est un parti qui manifeste. Alors, pas toujours pour... par exemple, pour le soutien des femmes israéliennes, moi, je ne les ai pas beaucoup entendues. Donc, ils ont quand même leur cause. Là, que LFI manifeste et soutienne le peuple iranien très bien. Bon, après, ce serait bien que d'autres personnes le fassent aussi, de façon plus globale. Notamment, je pensais, Elie Chouraki disait que beaucoup de monde dans le monde culturel, pardonnez-moi la redondance, ne soutenait pas. C'est vrai aussi, hein, vous avez des personnes dans le monde de la culture qui s'expriment pour tout, pour un oui, pour un non, qui bombardent de stories sur les réseaux sociaux, mais quand la cause ne leur convient pas, eh bien, ils ne disent rien. C'est
Écoutez
vrai aussi.
Le réalisateur Elie Chouraki.
Le monde culturel, comme toujours, a une grande importance. C'est lui qui est normalement, surtout dans notre culture, dans notre société, est une lumière. C'est lui qui dicte à la population, souvent, dans quelle direction il doit aller. Les artistes sont très segmentés. Il y a les bons et les méchants. Les bons, pour eux, ce sont ceux qui sont en souffrance. Les héritiers des communistes. Les héritiers du monde ouvrier qui souffrait, qui a souffert terriblement en 19e siècle, 20e siècle. Et ces ouvriers, ces hommes de douleur, ont été remplacés par le monde islamiste. Et ne nous y trompons pas, nous vivons aujourd'hui un des moments les plus importants de l'histoire de ce début du XXIe siècle. Si les ayatollahs aujourd'hui gagnent, c'en est fini, peut-être de l'Occident.
Elie Chouraki qui publie une magnifique tribune, d'ailleurs, dans le JDD. Hein, faut être islamiste pour avoir votre compassion? Faut-il cracher sur l'Occident, Israël ou les États-Unis pour gagner votre sympathie, votre charité? Il n'a pas tort, quand même.
Mais
Elie
la dernière fois que j'ai vu des artistes engagés, c'était pour la supérette rue Vavin. Vraiment.
Ah oui, parce que
c'est là où je les ai vraiment engagés.
Parce qu'ils trouvaient que leur quartier était enlaydi.
Exactement, il y avait une formulation assez drôle. Mais oui.
Ça, c'était cocasse. Non, mais c'est vrai que Charlotte Dornelas, même si c'est pas forcément leur rôle, on les entend à géométrie variable, hein, quand même, le monde de la culture.
Moi, je m'amuse un peu de ce que je disais là pendant le son, c'est que bon, les artistes, on leur reproche un jour de parler, un jour de pas parler, un jour de trop parler, un jour de pas assez parler. Moi, je n'assigne pas les gens à se saisir d'une cause ou à la revendiquer. Je constate, en revanche, avec vous là, très facilement, que en effet. Le monde culturel souffre d'un conformisme qui se situe souvent à la gauche, très à gauche de l'échiquier politique sur à peu près tous les sujets. Ça, je le constate. Maintenant, s'ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je ne vais pas les obliger à penser différemment ou à saisir de causes dont ils n'ont pas envie de se saisir, mais tout le monde a remarqué qu'ils ne s'en saisissaient pas. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai de beaucoup d'autres causes et dont d'ailleurs personne ne se saisit. Les chrétiens du Nigeria, ils n'ont personne pour parler d'eux. Ils sont massacrés par milliers.
Donald Trump.
Ils ont non ah ouais bah je savais même pas bah, là en l'occurrence bravo à lui non mais il y a vraiment des gens qui sont massacrés absolument partout dans le monde dans l'indifférence absolument générale de tout le monde. Donc en effet bon
là où c'est important, pardonnez-moi de vous couper Charlotte, c'est que ces gens-là sont suivis, sont des, comme on dit, des leaders d'opinion.
Franchement, l'intégralité du monde culturel s'engage pour l'immigration depuis 50 ans, ça n'empêche pas les Français d'être de plus en plus à être contre, hein. Donc on les écoute quand on est d'accord avec eux, on s'indigne quand on n'est pas d'accord avec eux, mais globalement ils font pas l'opinion. Non plus, surtout aujourd'hui où il y a quand même des faiseurs d'opinions tellement divers. Moi, quand je vois les gamins de 20 ans désormais, vu mon âge avancé.
Oui, bah écoutez.
Ceux qui font leurs opinions, en tout cas ceux avec lesquels ils construisent leurs opinions, je sais même pas qu'ils existent en fait. Hein. Ils sont sur les réseaux sociaux,
sur TikTok et sur Snap.
Donc, vous voyez, il y a tellement de leaders d'opinion entre guillemets, il y a tellement d'influenceurs, comme on les dit aujourd'hui, mais qui de fait influencent beaucoup de gens, que je suis pas sûre que le monde culturel tel qu'on l'a imaginé d'un bloc soit aussi prescripteur que cela. On peut regretter d'ailleurs qu'il s'engage en effet que certains gamins qui sont morts dans des circonstances atroces les touchent et d'autres pas du tout. On peut regretter qu'en effet il y ait des peuples qui souffrent, qui les intéressent et d'autres pas du tout, alors que les souffrances des populations sont évidemment équivalentes. Mais je crois que dans ce dossier iranien, franchement, la vie des artistes français est assez anecdotique, si je puis me permettre, par rapport à ce qui est en train de se jouer en Iran. On était en train de parler déjà de la place de la France, mais alors la place des artistes français dans dans la marche du monde, bon, c'est peut-être le moment de les remettre un peu à leur place aussi.
Ce que vous faites très bien.
En effet, la question iranienne, elle est interloquante, on va dire. Là, encore une fois, ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que malheureusement, le peuple iranien est un peu pendu aux lèvres des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour le dire simplement.
Oui.
Et là, Donald Trump, ces derniers jours, qui explique, dans un premier temps, qui encourage les Iraniens à poursuivre leur révolte et qui, dans un deuxième temps, explique que tout est terminé.
Encouragé par le Qatar et même par Israël, hein. de ne pas y aller. Hein.
Non, mais moi, il y avait plusieurs articles qui expliquaient que
les avions avaient déjà décollé et qu'ils ont fait demi-tour.
Je ne lui reproche pas de ne pas intervenir, parce que je pense que la région est un peu traumatisée par les interventions américaines.
Ça pourrait être contre-productif.
Il y a plusieurs sortes de prudence par rapport à l'interventionnisme, américain. Non, mais sur le dossier, moi, il y a une chose que je remarque dans la prise de parole du guide suprême en Iran, c'est que lui-même reconnaît les morts dans les manifestations. Vous savez, en général, il y a une contestation absolue. Il les impute à Donald Trump, mais donc il reconnaît qu'ils existent.
Vous avez raison.
Et dans des proportions évidemment suffisamment graves.
Parce que l'ambassadeur d'Iran avait voté en touche.
D'habitude, la réaction, c'est de dire c'est n'importe quoi, fake news, diffamation à travers le monde.
Bon, là, en l'occurrence, il
y en a trop. Oui, alors franchement, ça n'a pas empêché. On a eu des charniers, on a eu pendant le moment de l'URSS, il y avait des milliers de morts et tout le monde se taisait. Alors, il n'y avait pas les mêmes moyens de communication et d'image, ça c'est vrai, mais il pourrait très bien le relativiser, expliquer que ça n'a rien à voir, que c'était des terroristes, que c'était menace à l'intégrité iranienne, ce que l'on entend parfois. Là, il reconnaît qu'ils existent et évidemment, il se décharge.
Vous faites bien de le souligner,
parce
que c'est une première.
Mais non, mais moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans sa déclaration. Je me suis dit, au moins, on s'entend sur le massacre clair de personnes qui se révoltaient, en l'occurrence, contre le pouvoir en place. Maintenant, quel va être l'avenir proche de l'Iran? C'est compliqué de le savoir, parce qu'en plus, les points de comparaison qu'on entend ici et là sont toujours pertinents dans une certaine mesure, mais dans une certaine mesure seulement. On pense évidemment à tous les printemps arabes qui ont clairement été avortés dans leur traduction politique, mais l'Iran n'est pas un pays arabe, et la population iranienne est perse, et donc c'est pas du tout le même rapport ni au pouvoir, ni à la révolte, ni même à la construction éventuelle d'un pays à l'issue de ça. On a évidemment pensé à l'Irak, mais la situation n'est pas pareille, et les Américains ne réagissent pas du tout de la même manière. Et ni dans leur conception d'ailleurs.
Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un petit peu différent, parce que tous les pans de la population aujourd'hui manifestent en Iran. Des plus jeunes aux plus vieux, et ça c'est une première.
On a vu aussi des pans de la population manifester pour le régime. C'est évidemment, et en plus, souvent là aujourd'hui, on a des manifestants extrêmement nombreux contre le régime iranien, soutenus par une diaspora quasi unanime, mais ça ne dit pas tout ce qui est en train de se passer dans l'Iran. Et un régime tel que le régime iranien, même avec sa dureté, même avec son entrisme, c'est pas le mot, mais sa pénétration, on va dire, voilà, exactement, son emprise sur toute la société iranienne, un régime qui est contesté par 100% de sa population tombe. Donc c'est
là, ils sont infiltrés partout quand même. Donc
justement. Et oui, mais il peut tomber par la défection des gens du régime qui sentent que c'est la fin. Donc les semaines à venir vont être importantes, mais moi j'ai du mal à dire là aujourd'hui ce qui va advenir de l'Iran dans les prochaines semaines.
Il reste quelques minutes, mesdames, je voulais vous faire réagir justement. On en a peu parlé, mais ça reste à l'état de question. Ça aussi, la France va-t-elle à son tour inscrire les Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes? En tout cas, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale a approuvé une proposition en ce sens d'un député LR. L'examen aura lieu dans l'hémicycle le 22 janvier. Je vous propose d'écouter ce fameux député Éric Pauget dans l'exposé de ses motifs.
La mouvance des Frères musulmans entretient actuellement des liens idéologiques et historiques avérés avec des organisations terroristes déjà inscrites sur la liste européenne, au premier rang desquelles le Hamas, qui constitue une branche issue directement de la confrérie. Qu'il n'y a pas d'obstacle de principe à une action résolue dès lors que la menace est identifiée et documentée. Elle ne vise pas l'islam, elle ne vise pas les musulmans, mais exclusivement une mouvance politique qui instrumentalise la religion à des fins de conquête du pouvoir et dont l'action est incompatible avec les valeurs fondamentales de l'Union européenne et de la France.
Bon, on a envie de dire qu'il était temps. Alors, est-ce que ça va changer quelque chose? On se rappelle de ce rapport qui est sur les frères musulmans, l'entrisme, etc., de mai dernier du ministère de l'Intérieur. Bon, déjà, les groupes de gauche ont rejeté le texte dénonçant une proposition bancale, donc c'est pas gagné. Mais ça serait une bonne chose ou...
Mais ça ne changerait pas grand-chose. Proposition bancaire.
Oui, je m'attendais à bien pire. Je m'attendais à une proposition. Moi, je m'attendais à dénoncer une proposition raciste.
Voilà, raciste, xénophobe ou islamophobe. Bon. Non, mais si elle n'est que bancale, ça veut dire qu'avec un peu de travail, on va y arriver.
C'est que de la forme.
Voilà, exactement. Donc, finalement, vous voyez, on pourrait en avoir plein de bonnes nouvelles ce soir.
C'est vrai, on arrive à rire ce soir. Merci.
Non, mais retard que jamais.
Oui. Mais cela dit, l'Argentine vient de le faire, les États-Unis aussi. Je me posais la question du timing. Pourquoi seulement maintenant?
Il y a des élections bientôt.
Ils deviennent très puissants.
Non, puis il y a des élections bientôt. Il faut montrer qu'on fait un peu quelque chose.
Oui. Ah oui.
Alors, est-ce que ça changera vraiment profondément, cela dit, l'influence qu'a cette organisation ? Je ne suis pas sûre. Hein.
Bah, le problème, c'est qu'en France, ça n'est pas une organisation précisément. Mmh. Il y a beaucoup de pays, on prend en permanence les pays arabes, notamment, qui ont interdit les frères musulmans depuis des années et des années, mais c'était des organisations avec pignon sur rue, avec des bureaux, avec des... Donc c'est plus facile quand vous avez une interdiction, vous avez notamment sur le terrain financier une possibilité d'action immédiate. En France, il y a quelque chose. Alors voilà précisément une dimension qui, une décision qui même symbolique est extrêmement importante parce qu'elle montre la volonté de repartir à l'offensive, de la contre-offensive, on va dire, de la France par rapport à celle des frères musulmans. Donc reconnaître son existence qui a été contestée quand même pendant des années et essayer de la traduire en effet en acte. Maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est que on reproche aux frères musulmans finalement l'islamisation de la société. Elle se fait aussi beaucoup par le nombre, hein, même sans les frères musulmans.
Merci Charlotte Dornelas, merci à merci. Vous Sarah Salman. Un petit point sur la météo avant de se quitter. Stella Lafond, on garde toujours un œil demain sur le sud-est, notamment le département de l'Hérault.
Placé, oui, en vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à 18h demain. Alors même sans être placé en vigilance similaire, les départements autour ne sont pas épargnés. Hein, ça pleut pas mal déjà du côté du Languedoc ce soir. Demain, le réveil se fera même sous quelques orages dans la zone, hein, avec un vent qui s'est renforcé, pointe à 80 voire 90 km/h sur les côtes varoises et le golfe du Lion. Sur tout le sud-ouest et en remontant jusqu'au Cotentin, on aura un ciel bouché hein, demain, laissant peu de place à l'imagination. Hein, ça devrait aller un peu mieux, sauf pour les côtes atlantiques qui vont rester sous le gris toute la journée de demain. On a la neige aussi qui est de retour sur les massifs frontaliers des Alpes, des 1400 mètres, avec une vigilance à observer, hein, puisque le risque d'avalanche sera probablement revu à la hausse. Et puis pour finir, on pourra noter demain matin au réveil des brouillards matinaux hein, sur la Bresse, l'Alsace et le Val-de-Saône. Ça devrait se maintenir autour du Lyonnais toute la journée. Côté température, elle varie entre moins 2 degrés et 2 degrés sur le nord-est du pays et entre 2 et 8 sur le reste de la France.
Merci Estelle.